Mais avant, quand même, j'aurais envie de commencer un petit peu, parce que j'entends tout à fait votre discours sur n'incriminons pas l'Europe, incriminons les États. Bon, je vois bien que. Bon, on ne peut pas dire que. Donc, il faut effectivement que les États se prennent en main pour nous construire une Europe plus. Ah, qui n'est pas les.
Les États et les peuples.
Les États et les peuples,
oui,
absolument.
Les peuples se réveillent.
Donc la question, c'est vraiment ça, c'est celle du réveil des peuples. Donc vous nous avez commencé par nous dire que l'Europe n'était pas démocratique, qu'elle avait été construite comme ça au départ, qu'elle avait été construite comme ça avec la sécurité en 50, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, disons que ça fait quand même 67 ans, qu'il s'est peut-être temps de passer à autre chose, et donc je voudrais vous entendre là-dessus.
Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, le moment du contrôle démocratique est venu. Moi, je propose un certain nombre de réformes, pas une révolution, parce que ça ne sert strictement à rien. Je parlais du Parlement européen tout à l'heure. Je pense qu'il faut rendre le Parlement européen plus démocratique. Il ne sera pas entièrement démocratique, mais un peu. Donc, par exemple, revoir la répartition des sièges entre les États. C'est juste pas tolérable que la France, un député français, représente 900 000 personnes. Ce n'est pas tolérable, surtout si l'Europe doit, à terme, intervenir, et elle le fera de plus en plus, dans, par exemple, nos systèmes de protection sociale, dans nos retraites, dans nos salaires. Parce que, de facto, on arrive à des partages de souveraineté dans des domaines qui, jusque-là, relevaient des souverainetés nationales. Donc il faut, d'une façon ou d'une autre, qu'on donne davantage de légitimité à ce Parlement. Donc ça, c'est une première réforme. Et là, il faut que la France se monte intransigeante. Je vous le signale tout de suite, que si c'est comme ça, c'est parce que la France ne s'est jamais battue pour une meilleure représentation, comme il faudra que je le dise. À chaque fois que j'ai alerté les autorités françaises, parce que je parle avec les présidents, le seul avec qui je n'ai pas parlé, c'est François Hollande, parce qu'il n'avait rien à dire sur l'Europe, ils ont foutu complètement des trucs, mais donc, on ne le voyait jamais. Mais en tous les cas, Chirac et Sarkozy, qui eux étaient passionnés par la matière européenne et avec qui on pouvait discuter régulièrement, à chaque fois qu'on leur parlait des questions de représentation et des Français au Parlement, et Sarkozy a eu l'occasion de peser tout son poids au moment de l'adoption du traité de Lisbonne, ils s'en foutent. Pourquoi ? Parce qu'il y a un mépris français qui est ontologique à l'égard du Parlement. C'est-à-dire, on s'en fout du Parlement. Ils n'ont toujours pas compris en France que le Parlement a les mêmes pouvoirs aujourd'hui que le Conseil des ministres dans à peu près tous les domaines. Et donc, quand on parle du Parlement au président français, il vous regarde comme si vous parliez de la planète Mars. Parce qu'il a tellement de mépris à l'égard de son propre Parlement qu'il ne voit pas que le Parlement européen, il se rapproche davantage, en termes de fonctionnement, de pouvoir, etc., d'un Parlement, d'un pays réellement démocratique à l'allemande. Les Français au Parlement européen ne pèsent rien. On n'existe pas. D'abord parce qu'on est suffisamment cons pour avoir élu un quart de notre représentation, d'avoir désigné les députés Front National, quand même. C'est vraiment les champions du monde, avec les Italiens qui ont désigné aussi un quart de représentation, c'est des représentants de Beppe Grillo, là, du mouvement 5 étoiles, qui sont aussi des bandes de farfelus. Donc on a un quart de notre... D'ailleurs, on n'est que 74, et donc il y a 50 personnes, simplement, qui représentent des partis démocratiques et qui sont admis dans le jeu politique européen. Donc déjà, nous sommes au niveau de la Pologne. On n'est pas au niveau de la Grande-Bretagne, au niveau de la Pologne. Et ensuite, on est tellement divisé entre les groupes politiques, parce qu'on est des tribus gauloises, au fond. Hein, on n'a pas changé sur le fond. Les germanistes sont bien plus organisés que nous. C'est que les Germains, eux, ils sont dans 4 grands groupes. Nous, on est dans 7 groupes. Waouh ! Donc, dans chaque groupe, on pèse peu. Donc le résultat de tout ça, de cette dispersion, du fait qu'on vote pour des partis qui ne sont pas dans l'arc républicain, eh bien ça fait que la France, elle a totalement disparu. Et donc parce qu'on ne pèse pas au Parlement européen, on s'imagine à Paris que, donc, le Parlement européen n'a aucun pouvoir. Et donc on se fout royalement de la façon dont est réparti le pouvoir au Parlement européen. Voilà l'espèce de logique complètement folle dans laquelle nous sommes enfermés, nous les Français. Évidemment, je vous le dis tout de suite, même les Polonais ont compris l'importance du Parlement européen. Hein, je vous le dis clairement. Donc, ça, c'est une proposition que je fais. J'espère que, simplement, à un moment ou à un autre, nos responsables politiques va l'entendre. Parlement de la zone euro. Vous savez qu'aujourd'hui, au sein de la zone euro, toutes les décisions, parce que ça s'est construit comme ça, c'est pas une volonté, je dirais, d'écarter toute représentation. Non, c'est que ça s'est fait. Comme les compétences de la zone euro se sont étendues au moment de la crise, donc c'est étendu vraiment au domaine budgétaire et de politique économique au moment de la crise de la zone euro de 2010-2012, à ce moment-là, effectivement, on a créé des mécanismes de contrainte, des mécanismes de contrôle, mais hors traité, en règle générale, hein, par du droit dérivé ou par des traités ad hoc. Or, pour donner un contrôle, un droit de contrôle au Parlement européen sur ces domaines, il faut modifier le traité fondateur. Et les Français n'ont pas voulu, parce qu'ils disent, bah, après 2005, si on modifie le traité, il va falloir faire un référendum, et on va le perdre. Ce qui n'est pas faux, hein, parce que vous faites un référendum sur n'importe quoi en France aujourd'hui, ça sera non, juste par principe. Donc, peut-être que l'ambiance va changer maintenant, mais à une époque, c'était comme ça. Et donc, on n'a pas voulu. Donc, le résultat, c'est qu'il fallait quand même s'intégrer. Donc, on a donné du pouvoir à la Commission, on a donné du pouvoir à l'Eurogroupe, qui est l'enceinte des ministres des Finances de la zone euro, mais on n'a pas prévu de contrôle démocratique, parce qu'on ne pouvait pas légalement le faire à cause des Français qui ne voulaient pas modifier le traité. Donc, le résultat aujourd'hui, c'est que la Commission, dans son activité de contrôle de la zone euro, et l'Eurogroupe, dans son activité de législation de la zone euro, parce qu'elle a quand même si la législation de facto est adoptée à 29, néanmoins, quand la zone euro le veut, les 28 suivent, lorsque les 19 le veulent, les 28 suivent. Eh bien, il n'y a pas de contrôle démocratique. Il y a un problème fondamental. Il n'y a pas de Parlement. Donc, il faut en créer un. Donc, je suis en faveur d'un Parlement de la zone euro, et je pense que ce Parlement de la zone euro, ça doit être composé en partie de députés élus au niveau européen, mais aussi de députés nationaux. Pourquoi ? Parce que ça serait aller plus vite que la musique que de confier le contrôle de la zone euro uniquement à des parlementaires élus au niveau européen. Je pense qu'il faut... parce que lorsque vous faites peser des contraintes sur les budgets nationaux, il faut que les députés nationaux qui sont élus pour voter le budget national puissent être impliqués dans le processus de décision. Bon, mais ça, c'est une décision un peu technique. Le Conseil européen chez l'État et le gouvernement, l'idéal, ça serait de le supprimer. Ce truc ne doit pas exister. Mais le problème, il existe. Voilà, on ne le supprimera pas. Parce que les chefs d'État et de gouvernement, ils ont le contrôle de l'Union européenne, ils ne voudront pas le lâcher. Mais de facto, comme c'est eux qui décident de tout. Et que nous, les Français, en plus, on a un problème supplémentaire par rapport à tous nos petits camarades. Comme nous ne sommes pas une démocratie. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi nous ne sommes pas une démocratie. Eh bien, en réalité, on a le sentiment que tout est décidé sans qu'on comprenne par qui, pourquoi et comment. La chancelière allemande, lorsqu'elle vient à Bruxelles, elle va devant son Parlement, elle dit « Voilà, demain j'ai un Conseil européen à Bruxelles, et voilà l'ordre du jour, et voilà la politique que je vais défendre, et voilà les lignes de défense. Est-ce que vous êtes d'accord ?» Il y a un vote à chaque fois, et les députés la soutiennent ou disent « Attention, c'est pas un mandat impératif, elle avertit. » Elle rentre de Bruxelles le lendemain, et elle va devant son Parlement en disant « Voilà ce que nous avons décidé, est-ce que vous êtes d'accord ?» Voilà, ça s'appelle la démocratie. En France, vous élisez un président de la République qui compte pour 5 ans, qui ne peut pas être renversé par son Parlement, et qui considère que la politique étrangère et la politique européenne font partie de son domaine réservé. Donc qui décide de la politique européenne pendant 5 ans ? Le président himself et son conseiller pour les affaires européennes. Ça sont deux personnes. Est-ce que le président va devant l'Assemblée ? Non, il ne peut pas en France, il n'a pas le droit. Est-ce qu'il va rendre compte après ? Non, c'est le Premier ministre qui ne vient jamais à Bruxelles, il ne sait même pas à quoi ressemble la ville, qui va devant le Parlement rendre compte d'un conseil auquel il n'a pas assisté. Ah, bravo, alors ça j'appelle ça de la démocratie. Donc, le déficit démocratique européen qui existe, comme je viens de le montrer, il est multiplié par 100 par le déficit démocratique français. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui les Français ont très souvent l'impression que... Il marche le micro ou j'ai l'impression que... Les Français ont l'impression qu'il y a un déficit démocratique majeur en Europe. Mais vous allez parler aux Allemands, vous allez parler aux Britanniques, vous allez parler aux Espagnols, personne ne pense qu'il y a un déficit démocratique. Absolument personne. Parce que ça fonctionne. À l'intérieur, il y a du contrôle. Nous, on a organisé l'absence totale de contrôle. C'est pour ça que je dis que la France n'est pas une démocratie, nom de Dieu. Ça ne l'est pas. Pendant 5 ans, la politique européenne vous échappera à vous, Français. Voilà. Alors qu'aux Allemands, ça n'échappe jamais. Les Allemands, au moment de la crise de la zone euro, par exemple, l'aide bilatérale, au début à la Grèce, ça a été un sacré débat, un vrai débat démocratique, au Bundestag et au Bundesrat. La création du Fonds européen de stabilisation financière, doté de 500 milliards d'euros, ça a été un sacré débat démocratique. Ensuite, la création et la pérennisation du mécanisme européen de stabilité, qui a pris la succession du FESF, eh bien, ça a été aussi un débat démocratique. En France, zéro. Le président a statué, le Parlement n'a même pas discuté, ils ont signé en bas de la feuille, et c'est terminé. alors que ça met en cause notre responsabilité, ça met en cause notre budget. On est contraint financièrement. Et moi, je suis désolé. Savoir si on va aider les Grecs, c'est une vraie question. C'est pas un truc qu'on décide comme ça. Non, on va pas aider les Grecs comme ça. Et à quelles conditions? Est-ce qu'on a discuté en France des plans d'ajustement imposés aux Grecs? En Allemagne, oui. On en a discuté ligne par ligne. En France, est-ce qu'on a dit non? C'est le président avec son conseiller qui a décidé. Donc, quand on dit, ouais, les peuples, mais, nom de Dieu, vous êtes français, faites de telle façon que la France se devienne démocratique. Moi, je suis halluciné de ce qui est en train de se passer pour les législatives, par exemple. Mais je suis halluciné. Je veux dire que ce qui est en train de se passer, c'est un hold-up. C'est des mots d'Emmanuel Macron. Le mec, il a 24% des voix au premier tour. Il va terminer avec plus de 400 députés. Alors les Français disent, il faut qu'ils gouvernent. C'est pas gouverné, ça. Il n'y a pas de parti, il n'y a rien. Je veux dire, donc pendant 5 ans, on va élire un type sans parti qui va décider de tout seul. Moi, ça me pose un problème. J'ai voté Macron, hein, je vous dis, j'ai soutenu Macron. Donc le problème n'est pas Macron. C'est le système dans son ensemble qui est fou. Et évidemment qu'après, le débat ne va pas se faire au Parlement. Le débat va se faire dans la rue. On crée les conditions en France que le débat démocratique échappe au Parlement. Donc notre problème, nous avons un problème démocratique en France avant d'avoir un problème démocratique au niveau européen. Donc c'est à nous de le régler. Donc ça, je finis la parenthèse. Donc sur les questions européennes, là je crois qu'en France, ça donne, il y a aussi une possibilité actuellement qui est intéressante. C'est que je disais tout à l'heure que pour moi la question européenne avait été tranchée par le vote du 7 mai, 9 mai, c'était le 9 mai, les élections présidentielles, par le vote du 9 mai, et que maintenant on peut avoir un débat européen plus apaisé. D'ailleurs, le Front National a décidé, va sans doute décider, de laisser tomber la sortie de l'euro et de l'Union européenne. Une fois que ça, et ça me panique un peu, parce que ça veut dire que là, le plafond de verre va sauter, donc autant les Français sont contre le Frexit, autant pour tout ce qui est musulman-xit, arabe-xit, étranger-xit, ça, ils sont plutôt pour, donc ça m'inquiète un peu, mais enfin bon, fermons la parenthèse. Donc aujourd'hui, peut-être qu'on a les conditions d'un débat plus apaisés sont réunis, mais pas avec cette assemblée qu'on va élire dimanche. C'est juste l'absence totale de démocratie. Voilà, un parti unique, c'est qu'on va avoir un parti unique pendant 5 ans, et qu'on laisse faire ça, je suis sidéré. Je suis sidéré. Donc voilà, est-ce que c'est vrai dans tous les autres États? Encore une fois, ma réponse, elle est là. C'est que dans les autres États, on n'a pas ce problème vis-à-vis de l'Europe. En réalité, quand vous regardez quels sont les pays qui ont des problèmes à l'égard de l'Europe, avec l'Europe, il y a deux pays pour nous. Deux. C'est la France et la Grande-Bretagne. C'est deux pays avec un pouvoir exécutif fort. Donc, dont tout procède. Alors c'est vrai vous allez dire, mais non, en Angleterre, il y a quand même un Parlement qui compte. Oui, mais le Parlement, il est totalement aligné sur le gouvernement. C'est-à-dire que le Parlement désigne le gouvernement, et ensuite, tant que le Parlement soutient le Premier ministre a quasiment tous les pouvoirs. C'est un peu la même chose qu'en France. Et c'était un pays qui a longtemps été centralisé, comme la France, qui se décentralisait récemment avec la loi de dévolution que Tony Blair a fait passer, mais qui a été un pays très centralisé, comme nous. C'est un pays jacobin, la Grande-Bretagne. Or, ces deux pays jacobins avec un pouvoir central extrêmement puissant, un pouvoir exécutif extrêmement puissant, sont mal à l'aise. Pourquoi? Parce que l'Europe, c'est le partage. L'Europe, c'est au contraire des pouvoirs décentralisés, de multiples contrôles à de multiples niveaux. C'est pour ça que les Allemands sont à l'aise. Les États les plus à l'aise dans la construction communautaire, ceux qui manœuvrent entre les pouvoirs, entre les institutions, ce sont les États fédéraux, et notamment les Allemands. Parce que l'Europe ressemble étrangement, vous regarderez les institutions et la façon dont c'est réparti, l'Europe ressemble étrangement à la République fédérale allemande. Et là, on est bien. En France, on ne comprend pas un truc qui a plusieurs sommets. Donc, alors, France, c'est une pyramide. L'Europe, c'est une succession de pyramides qui se croisent par leur base. Donc, c'est là, c'est le niveau où se partagent les responsabilités, les souverainetés. Et nous, on ne comprend que ce fonctionnement-là. C'est pour ça que nous sommes mal à l'aise et que les Britanniques sont mal à l'aise. Alors ils en ont tiré des conclusions, on s'en va. Nous, Français, on n'a pas choisi cette voie-là, et j'en suis très heureux, pour des raisons historiques, il y a des tas de raisons, on y reviendra. Mais en tous les cas, je pense que le moment est venu aujourd'hui, effectivement, que les peuples s'emparent de la question européenne, et de façon plus calme qu'auparavant, mais encore une fois, c'est nous qui avons un problème avec l'Europe, plus que les autres peuples. qui sont très contents avec ce qui se passe et qui sont prêts à aller plus loin, je pense. On le voit bien en Italie, en Espagne, au Portugal. Je veux dire que même dans des pays qui ont connu des crises extrêmement graves, il n'y a pas eu d'europhobie comme il y a eu en France à un moment donné, ou une espèce de truc où les choses ont explosé. Même en Grèce. Moi, j'étais en Grèce pendant toute la crise, hein, je fais plein de revoirs, vous allez voir les gens, ils n'avaient pas, c'était pas l'Europe qui était mise en cause, c'était leur propre classe politique qui les amenait à la faillite. Ils ne sont pas complètement crétins, hein. Ils savent très bien d'où vient la crise. Il y a monsieur, c'est vous qui avez le...
Est-ce que ce que vous dites sur la place des peuples et de la démocratie, notamment française, dans ce débat européen, n'est pas contradictoire à ce que vous disiez sur le fait que cette Europe plus forte doit se mettre en place à un moment avec une volonté des États, donc des dirigeants des États, qui sont capables de dépasser des intérêts populistes plutôt court-termistes, même si le court-termiste pour l'Europe c'est plutôt 20 à 30 ans, pour avoir une vision à 100 ou 200 ans. Je trouve ça très contradictoire. Je ne suis pas convaincu que, ben, regardez sur le traité européen de 2005, quand on a fait appel justement au vrai peuple, hein, pour le coup, on s'est planté. Et est-ce que ça ne serait pas la même chose si on avait demandé par référendum, soit au Parlement, soit directement au peuple, de soutenir la Grèce il y a quelques années? C'est un peu là, je trouve que c'est contradictoire votre propos.
Non, c'est pas contradictoire, au contraire, c'est dialectique. Et il était marxiste, le garçon, sa jeunesse. Vous avez cru même coincé comme ça. Non. Non. Que la construction européenne soit une construction étatique, c'est une évidence. Mais les États, dans les États, il y a aussi des peuples. C'est-à-dire l'État n'est pas juste, c'est pas une administration, et les élus viennent du peuple même. Bon, donc les deux sont totalement intégrés. Donc on peut pas les séparer. Alors effectivement, qu'il ait fait une petite élite, c'est plutôt les élites dont vous parlez. Au départ, oui, pour lancer la machine. Mais aujourd'hui, pour aller plus loin, parce que ces élites de l'immédiate après-guerre, elles sont disparues, elles sont mortes. Nos élites actuelles, qui sont formées à l'ENA. Bon, vous êtes tous de l'ENA ici, vous avez l'ENA, non ? Donc je peux taper dessus. Donc, ils sont formés à l'ENA, ils ne vont jamais quitter Strasbourg, déjà pour eux, c'est le grand étranger, donc c'est un peu angoisse. Donc, qui sont formés à l'ENA, ces élites-là, elles n'ont pas, pas connu, effectivement, d'abord la Seconde Guerre, la guerre, la privation, etc. Et donc, pour eux, l'Europe, ça leur est donné, mais ce n'est pas un combat. D'accord ? Donc, eux...
Oui, mais encore moins nos parlementaires.
Les parlementaires, c'est différent parce qu'ils sont en contact directement avec les gens. Ces gens-là, ces élites-là, ne sont pas en contact avec les gens.
Oui, mais aujourd'hui, vous dites qu'il n'y a pas d'Europe des peuples. Alors,
c'est là où je veux en venir. C'est que ces élites-là, aujourd'hui, elles gèrent l'Europe telle qu'elle est, mais elles n'ont pas de volonté d'aller plus loin. Donc la seule façon de prendre le relais de ces élites, c'est soit effectivement de retrouver des gens... Emmanuel Macron, par exemple, a cette vision que nous n'avaient pas ses prédécesseurs, et cette vision et cette volonté d'aller plus loin.
Il a fait l'ENA.
Oui, absolument. Mais vous savez, tous les énarques ne sont pas mauvais. Parfois, on trouve du bon. Non, mais donc... mais il a fait la banque Rothschild, c'est sans doute ce qu'il a sauvé. Il sait ce que c'est que le privé. Donc ça, déjà, ça change pas mal les choses. Et je pense qu'aujourd'hui, la construction communautaire est arrivée à un tel point qu'il faut que les peuples prennent le relais de ces élites, que les peuples le poussent. Et de toute façon, quand on a commencé à construire l'Europe, c'était quoi l'Europe ? C'était une union douanière et la politique agricole commune. Et d'abord, le charbon et l'acier, parce qu'il faut oublier le traité CECA, c'était le début. Donc c'était lointain, on s'en foutait. C'est-à-dire le charbon et l'acier, les quotas de production, la lutte contre les cartels, les sans-famille, etc. C'était lointain. Aujourd'hui, 70 ans après, l'Europe, au fond, c'est votre retraite. C'est peut-être vos salaires, vos conditions de travail, c'est la vie quotidienne. C'est la police, la justice, la lutte contre le terrorisme, la défense. Peut-être un jour, on va mourir avec un drapeau européen à la main. Un jour, ça, faut pas l'écarter. Ça peut arriver plus vite qu'on l'imagine. Mais donc, aujourd'hui, on ne peut plus maintenir les peuples à l'écart. C'était vrai il y a 20 ans, et c'est totalement exact aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il faut pour autant procéder par référendum ? Non, surtout pas, parce que les référendums sont nationaux. D'abord, je suis contre les référendums, parce que vous ne répondez jamais à la question posée. De toute façon, ça ne sert à rien de poser une question. Mais surtout, comme le disait très bien Philippe de Villiers à propos du traité constitutionnel européen, je ne sais pas, il y avait 550 articles, et il dit « il y a 550 bonnes raisons de voter non ». Oui, parce que vous trouvez toujours un truc qui vous déplaît, machin, puis pour peu que votre chauffage ait pété la veille, vous êtes énervé, vous votez non. Le référendum est surtout national. À la limite, vous faites un référendum trans-européen, avec une question générale. Est-ce que vous pensez qu'il faut créer un corps de garde-frontières européen chargé de surveiller les frontières extérieures ? Hyper précis, hein. pas un truc du genre la Banque Centrale Européenne doit être indépendante ou dépendante, parce que ça, les gens nous ont un truc très concret. Est-ce qu'il faut une armée européenne? Est-ce qu'il faut une industrie de la défense européenne? Est-ce qu'il faut une politique des aides européennes? Oui, trans-européen. Et vous dites, voilà, si trois quarts des pays représentant trois quarts des peuples, des citoyens, votent en faveur de ce référendum, paf, on le met en œuvre. Il y avait des questions précises, pas des questions juridiques à la mort moelleux. Et là, vous pouvez entraîner un mécanisme comme celle-là. C'est une idée qui n'est pas de moi, hein, c'est l'idée de Cohn-Bendit, une idée de Joschka Fischer, une idée de référendum trans-européen pour créer une opinion publique européenne.
Ouais. Je voudrais réagir quand on va être exposé à charge.
À charge.
À charge pour ce qui ne serait pas pour l'Europe. Et à charge contre les États qui géreraient mal l'Europe. Je trouve que c'est exonérer la responsabilité qu'ont les États sur le fait d'avoir conduit une extension à bride abattue, d'avoir construit des programmes qui n'étaient pas sur des préoccupations citoyennes, et je crois que la responsabilité, elle est partagée. La construction de l'Europe, ce n'est pas simplement le fait des États qui la gèrent mal, c'est qu'on a engendré, en partant de la paix, quelque chose qui a échappé à ses géniteurs eux-mêmes. Je suis un peu surpris, vraiment, hein. J'ai beaucoup apprécié le fait que vous remettiez la question de la paix au cœur de l'affaire, au cœur du dossier, mais derrière, c'est comme si l'Europe était blanchie dans ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est pas simplement la réappropriation par les peuples, me semble-t-il, c'est aussi parce qu'à un moment donné, elle a échappé à ce qu'était son intention initiale. Quand on est aussi nombreux maintenant, qu'est-ce que l'on partage? Donc voilà, c'est un peu une réaction à chaud, mais oui, j'ai ressenti votre propos à charge.
Alors, je vais vous dire, quand vous dites l'Europe, moi, c'est un peu comme si vous me disiez la France. La France a loupé son propos initial. Voilà, la France a échappé à ses géniteurs, la France a échappé à ses concepteurs. Est-ce que vous diriez cela? Non,
le ça ne veut rien dire. Ce que de la France,
vous avez bien montré que l'Europe n'est pas la France.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que la France, personne ne vous diriez, les politiques menées. Ça, je veux bien vous entendre. Mais l'Europe en soi, l'Europe, c'est l'organisation continentale. Est-ce que l'Europe a engendré quelque chose de particulier? Non, c'est des hommes et des femmes qui sont responsables, en charge, qui représentent des intérêts politiques et qui font l'Europe au quotidien, qui accouchent de politiques concrètes. Un exemple. Au début, l'Europe, c'était une Europe douanière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'extérieur de l'Union européenne, vous aviez des tarifs douaniers pour nous protéger de la concurrence extérieure. Dans les années 80, pourquoi on est passé de cette Europe douanière, protectrice, protectionniste, on va dire, à une Europe ouverte au monde? Pourquoi on est passé de l'union douanière à l'union mondiale? On est passé au libre-échange intégral, hein, à la défense des grands accords commerciaux internationaux. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'Europe. Dieu a parlé, Dieu européen a dit, ben voilà, aujourd'hui, on les a... Non, ce sont des chefs d'État de gouvernement qui ont dit, on y va, on s'ouvre à fond, on supprime les protections aux frontières extérieures et on passe des accords avec l'ensemble de la planète. On fait l'OMC. L'OMC, vous croyez que c'est quoi? La Commission qui l'a négocié toute seule? Mais la Commission, elle négocie que ce qu'on lui demande de négocier et elle fait exactement là où on lui dit de faire. Donc c'est ça, en cela que je dis que ce sont les États. Alors, si vous me dites, oui, mais à Bruxelles, il y a aussi une idéologie. Ah oui, je suis d'accord avec vous, il y a une idéologie. Ah ben, une sacrée idéologie même. Mais le problème, quand les peuples votent aujourd'hui à 80%, 90%, pour des partis qui sont libéraux ou conservateurs, allez regarder au Parlement, même le groupe socialiste, ce qui s'appelle le groupe socialiste, là-dedans, Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens que vous identifieriez comme socialistes, mais au sein du groupe socialiste français, parce que ce sont au maximum des sociolibéraux. C'est-à-dire c'est l'arc politique européen, il va de l'extrême droite, je dirais, au centre-gauche. Il y a quelques allumés de gauche radicale, mais ils comptent rien, il y en a une vingtaine. Voilà. C'est à peu près ça l'arc. Aujourd'hui, le Conseil européen, 28 chefs d'État de gouvernement, eh bien, vous en avez 23, je crois, qui sont conservateurs ou libéraux. Et quand je dis libéraux, pour un Français, c'est ultra, ultra, ultra libéraux. Hein, d'accord? L'État, pas bien. Le marché, c'est bien. Et donc, ces États, qui sont dirigés par des libéraux et des conservateurs, élus par des peuples, qui sont tout aussi libéraux et conservateurs que les gens qu'ils élisent, sinon ils ne les éliraient pas, nomment des commissaires européens de leur couleur politique. Ils ne vont pas nommer un gaucho à Bruxelles. Donc, vous ne pouvez pas avoir avec des peuples de droite, des des chefs d'État de gouvernement de droite, des parlements de droite, des commissaires de droite, une Europe de gauche. Ça, non, vous l'aurez jamais. Je vous le dis tout de suite, vous l'aurez jamais.
Mais je vous ai jamais parlé d'une Europe de gauche.
Non,
mais je vous ai jamais parlé d'une Europe de gauche.
Non, mais ce que je vous dis simplement, oui, mais si une Europe de gauche, une Europe qui représente les peuples. Et les peuples, ils sont de droite. Mais les peuples, ils ont l'Europe exactement qu'ils souhaitent. C'est cette Europe-là qu'ils veulent. Quand vous faites des sondages à travers l'Europe, sur les, par exemple, le TAFTA, c'est vachement intéressant, le TAFTA. Même en France, le TAFTA de l'accord de libre-échange, qui a été si contesté, en France, il est soutenu par une majorité de Français. Alors, c'est... Damn note. Moi, je suis plutôt contre cet accord avec les Américains, parce que je trouve que c'est une mauvaise idée, parce que c'est dans la question de la normalisation et des normes, c'est souvent le plus fort qui gagne. Et on est plus fort à l'extérieur d'un système de contraintes qu'à l'intérieur d'un système de contraintes. Donc là, avec les Américains, moi je suis con. Mais à chaque coup, je suis sidéré. Parce que j'ai fait, effectivement, j'ai été interviewé Malmström, qui est la commissaire chargée du commerce, qui est une libérale suédoise déterminée à faire péter toutes les protections existantes en Europe. Et alors, du coup, je dis, ouais, le TAFTA, tout ça. Il dit, ah ouais, bah tiens, regardez le dernier sondage fait en France sur le TAFTA, tac, tac, elle me montre le truc. Non, ça, vous êtes tout seul à le penser. Et vous savez, là, j'ai vu encore hier votre président, là, François Hollande, là, le mec de gauche, là, de l'Europe des peuples. Ben, il m'a dit, allez-y, hein, faut conclure le TAFTA. Ah ouais, c'est con, il a répété, en 5 ans, il a répété 10 fois le mandat de la Commission pour qu'elle négocie le traité de libre-échange avec les États-Unis d'Amérique. Donc, l'Europe, en soi, ça ne veut rien dire. Encore une fois, si demain, eh ben, vous avez des gens qui pensent que l'Europe doit être davantage protégée, davantage sociale, davantage, qui doit partager la défense, qui doit créer, par exemple, un filet social européen, un salaire minimum européen, évidemment, pas général, mais pays par pays, chaque pays crée son salaire minimal européen, etc. Vous l'aurez, du jour au lendemain, ça va être merveilleux. Mais vous ne pouvez pas avoir ça tout en votant pour des ultra-libéraux. Ça, c'est pas possible. Donc l'Europe, ça ne veut rien dire. C'est l'équilibre politique qui détermine les politiques européennes. Et vous allez me dire, oui, mais attendez, regardez les traités. Ah, mais je suis d'accord avec vous, les traités aujourd'hui ne permettraient pas de faire un filet social minimal. Je suis d'accord avec vous. Il faut donc une modification des traités. Mais personne n'a jamais proposé une modification des traités dans ce sens-là. Oui, non,
justement, sur ce sujet-là, précis. Sur ce sujet.
Respectons l'ordre.
Alors moi, je n'aime pas la parole. Vous vous débrouillez entre vous. Moi, je suis très démocrate.
Comme vous avez levé la main premier, je vais. Est-ce que les Français à l'Europe, tient pas un à la conception française de la politique qui, depuis la Révolution, est une conception d'affrontement et pas du tout une conception d'élaboration de consensus. Deux, est-ce que si la distance entre les Français et l'Union européenne est importante, ce n'est pas à cause de la faiblesse de la représentation journalistique française, de la place, au contraire de la législation, de la place offerte de l'information sur l'Europe au niveau national? Qu'est-ce que vous proposez et s'inspirer de la proposition qu'avait faite Nicolas Sarkozy en termes de représentation des territoires, en décidant que les conseils départementaux pourraient siéger au niveau du département et se réunir pour siéger au niveau de la région, pour faire en sorte que les parlementaires européens, qui de toute façon travaillent sur 80% des 90% de textes examinés par le Parlement national, puis siéger à la fois au Parlement national, au Parlement européen, et en tant que besoin, revenir au Parlement national dans la configuration qui est la leur et dans le même nombre pour adapter au niveau national les textes votés. Ce qui permettrait d'avoir des députés européens d'un niveau un peu plus important et des personnalités un peu plus engagées que celles qu'on a aujourd'hui, parce que finalement, à part les conseils régionaux, le Parlement européen, c'est le lieu de reclassement des apparatchiks politiques, des vrais élus engagés, intéressés par l'Europe. Bon, allez, peut-être que les deux mains peuvent suffire à les compter au sein de la délégation française.
Ben, je dirais oui, oui, bonne idée.
Quatre mots.
Ça me paraît, oui, je suis d'accord avec vous sur l'affrontement. Voilà, c'est en France, on adore le théâtre politique. Alors, mais c'est encore une fois, c'est encore en train de changer. Parce que ce qui vient de se passer avec Macron montre qu'on est enfin ensemble d'un seul coup grandir. Moi, honnêtement, vous m'auriez posé la question il y a un an, j'aurais dit non, parce qu'on se laisse saouler par Marine Le Pen, par Jean-Luc Mélenchon, par les tribuns, etc. Et le mot compromis en France, ça résonne comme compromission. C'est-à-dire, le compromis, c'est la nature même de la politique. Et d'ailleurs, en France, on adore ce théâtre de rue, etc. Oui, on ne cédera jamais, etc. Mais en réalité, regardez la réalité de la politique au quotidien, les alternances. Est-ce que vous passez du jour à la nuit, comme l'aurait dit François Mitterrand, Jacques Lang, au moment de l'élection de François Mitterrand, de la nuit au jour? Non, absolument pas. En réalité, c'est les changements sont, ça, c'est dans un arc de 10 degrés, hein, maximum. Voilà, parce que, et puis surtout parce qu'en grande partie de l'administration ne change pas, de ce point de vue-là, Macron a très bien fait, moi j'approuve l'idée d'un spoil system à la française, parce que vous avez des lois qui sont votées, et 50% des lois qui ne sont jamais appliquées, parce que vous avez un directeur général, enfin, directeur d'administration centrale, qui refuse de l'appliquer. Des nombres de décrets qui ne sortent pas, moi je suis absolument sidéré. Hein, 10 ans après, le truc n'est toujours pas fait. Et là, qui demande à chaque DG de dire je suis fidèle ou je me casse, c'est très bien, c'est à l'américaine. Allez, il faut que l'administration redevienne non pas un instrument d'expression de la volonté d'une administration qui échappe à tout contrôle, mais un levier d'application de la volonté populaire. Et la volonté populaire, là, c'est mettre en œuvre les réformes que va vouloir Macron. C'est aussi simple que ça. Donc, vous avez raison, c'est ça notre problème. C'est comment se retrouver dans cette... Nous qui n'aimons pas le compromis, on vit dans un univers de compromis. Ça, c'est clair. Voilà. Sur le dernier point, moi, c'est une idée, j'avoue, j'avais jamais réfléchi à ça. Mais je pense que déjà, une des premières choses, ça pourrait être de faire désigner les députés européens par les partis politiques européens. Ceux qui vont être constituer les listes par des partis politiques européens. Parce que ça éviterait effectivement le recasage des petits copains par le parti politique national. Parce que vous voyez bien qu'au moment où on compose les listes nationales, et bien qu'est-ce qu'on fait? On recase Rachida Dati, Michel Alliot-Marie, etc. Et on vire des types comme Jean-Paul Gauzès, qui ont travaillé, qui ont été absolument remarquables, qui ont une influence forte au Parlement, mais qui sont totalement inconnus sur la scène politique française. Voilà. Et on en voit Rachida Dati qui passe son temps à téléphoner à ses amants au Parlement. À l'aide. C'est vraiment au secours. Voilà. Et donc, peut-être qu'on arrivera... Non, mais parce que Rachida Dati... Ah, alors, pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Parce qu'elle a été filmée par une équipe de télévision où elle avait gardé son micro, c'était M6, elle avait gardé son micro là, donc elle avait le petit boîtier, elle avait totalement oublié qu'elle était filmée.
Et comment vous savez à qui elle parlait alors?
Parce qu'on
l'a entendu. C'était vous à la bout du fil.
Je ne commente jamais la vie privée, j'adore commenter celle des autres. Voilà, il y avait un monsieur et monsieur.
Oui, moi je vais alors. Une question et une réaction. Donc oui, je reviendrai sur ce que vous disiez sur l'Europe sociale à un moment. J'ai quand même le sentiment qu'un des moteurs de l'euroscepticisme, en tout cas de l'euroscepticisme français, il est de considérer que voilà, on a créé une Europe de l'euro, une Europe financière, qu'on y a mis beaucoup d'énergie, et sans doute pas assez d'énergie sur une Europe sociale, alors les minima sociaux comme vous avez dit, l'harmonisation de nos diplômes pour pouvoir aller bosser n'importe où. Comment vous voyez, alors j'ai bien compris que Europe des peuples contre Europe des États, mais comment vous voyez l'évolution dans ce domaine-là qui, me semble-t-il, alimente beaucoup l'euroscepticisme français? Puis la petite réaction, c'était sur le bashing des DG, je ne suis pas DG, pas encore. Sur le problème, effectivement, de la non-écriture des décrets, il y a peut-être d'autres choses à voir quand même. Je rappelle qu'un préfet reçoit 80 000 pages de décrets et circulaires d'application par an, 80 000 par an. Donc si on créait des lois qui ne suscitaient pas 6500 amendements et chacun 2,5 décrets, peut-être qu'on ferait tous les décrets d'une loi
connaissant mieux quoi la machine. Moi je vois la machine ici et le pouvoir des DG, et effectivement ils ont cassé le pouvoir des DG ici parce qu'ils étaient absolument devenus les commissaires bis en les faisant tourner tous les 4-5 ans. C'est simple. Donc comme ça, les types n'arrivent plus. Alors le problème, c'est la très forte... Alors, est-ce que c'est une solution? Je ne pense pas non plus, parce que vous ne pouvez pas savoir la déperdition de connaissances. Parce que quand vous passez du numérique à l'agriculture, ben, vous ne devenez pas effectif comme ça du jour au lendemain. Bon, en même temps, le champ de compétences de Bruxelles, comme je le disais tout à l'heure, est plus réduit dans les pays, dans les États-nations, évidemment dans nos vieux États, parce que là, les États, le champ de compétences est absolument énorme. Donc faire passer un DG, un directeur d'administration sociale de la sécurité sociale au ministère de l'Intérieur, je ne suis pas sûr, ça risque d'être assez violent. Ici, le turnover tous les 4-5 ans, j'ai vu ce que ça a produit, mais en même temps, c'était pas mal, parce que moi, vraiment, le DG qui décidait à la place de son commissaire, et le commissaire politique qui n'osait plus prendre la moindre décision, on lui expliquait que c'était juste pas possible. La phrase que vous entendez le plus souvent ici, c'est simple, c'est « Monsieur le commissaire, ce n'est juridiquement pas possible ». Voilà, c'est le truc de base. Donc c'est le pouvoir. Moi, j'ai été juriste pendant 10 ans, j'étais avocat, etc. Et comme je vais choquer les dames, je suis désolé, mais j'adore cette expression. C'est un jour, ça se passe en juin 1992, les Danois viennent de voter non au traité de Maastricht. Donc c'est la panique, c'est la première fois qu'un pays dit non à un traité. On est 12 hein, à l'époque, c'est pas 28, donc c'est 12. Donc c'est la panique générale, 4 juin, 5 juin, etc. Et puis, une semaine après, je découvre qu'ils sont en train de préparer un plan de secours. Si les Danois n'étaient pas encore certains qu'ils votent une seconde fois. Et on est prévu un plan de secours qui est d'écrire un traité, le traité de Maastricht, pour 11 pays. Et si les Danois ne revotent pas, eh bien, on fait ratifier le traité de Maastricht par 11 pays et on crée une communauté, enfin une Union européenne, à côté de la vieille CE, dans laquelle restent tout seuls les Danois. Donc les Danois, ils auraient eu leur bureau à la Commission avec un membre, le Parlement avec leurs 12 membres, et ainsi de suite. Alors moi, j'étais complètement sidéré, parce que c'est quand même violent, quoi, comme truc. Et je vais voir le porte-parole du Conseil, qui était un Italien, Vittorio Grifo, un vieil Italien... fédéraliste, comme on n'en fait plus. Alors j'ai dit, Vittorio, c'est complètement illégal ce que vous allez faire. C'est pas légal. Hein. Mais il dit, ma, tiens, les droits, c'est comme la peau des couilles. Tu le tournes dans le sens que tu veux. Et j'avais commencé mon papier à l'époque comme ça. Et le rédacteur, lui, ça va jamais passer, ils vont le faire sauter. Et en fait, le directeur de la rédaction m'appelle en disant, Jean, j'ai enfin compris le droit. Merci. C'est passé comme tel. Bon, aujourd'hui, on dirait plus ça parce qu'on se retrouverait en prison pour harcèlement sexuel. Non, à Bruxelles, ça c'est... Et donc, donc, c'est pour ça le droit et les DG, moi je trouve ça incroyable, et cette espèce de la volonté des DG d'être les gardiens des morceaux de la vraie croix et du Saint-Sieur de Jean Monnet. Non, c'est-à-dire le droit, il faut arrêter les conneries, c'est-à-dire que comme les compétences, etc., dire on peut très bien... Moi, j'étais avocat, et donc je travaillais dans un cabinet d'avocats à la Cour de cassation, enfin au Conseil d'État à la Cour de cassation, et je peux vous assurer, je pouvais un jour plaider A, et le lendemain plaider B, et avec la même conviction, mais la même, pour le même dossier. Là, je m'en fous, du moment où vous payez, moi je fais l'un ou l'autre, le reste, ça m'est égal. Donc voilà, c'est le problème fondamental d'une administration qui a tendance, et c'est Bruxelles, je ne sais pas au niveau français, mais à Bruxelles en tous les cas, qui a l'impression d'être l'incarnation de la vérité. Et ça, c'est dramatique, c'est vraiment mortel. Sur l'Europe sociale, le vrai problème, c'est que je crois qu'on a loupé le coche avant l'élargissement. Et même avant l'élargissement de 1995. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'Europe sociale, on aurait pu la faire avec le traité de Maastricht. Qu'on a tenté un petit peu, ce qu'a tenté de faire Jacques Delors. Vous savez qu'il y a eu le fameux protocole social du traité de Maastricht, parce que c'était un protocole, parce que les Britanniques n'en ont pas voulu. Et finalement, Tony Blair l'a accepté en 1997, quand il est parvenu au pouvoir. Mais évidemment, les Britanniques ne voulant pas du protocole social, on a négocié la partie sociale du traité de Maastricht en tenant compte de leur avis. Et puis à la fin, donc on a fait un truc très amoindri par rapport à ce que proposait Jacques Delors. Et puis à la fin, c'est salopard, comme toujours. Hein, ça, c'est pour ça que je suis content du Brexit. Et donc les Britanniques, à la fin, disent « Ah ben finalement, même ce truc amoindri, on n'en veut pas. » Donc le résultat, c'est qu'on s'est retrouvé au moment du traité de Maastricht. On ne pouvait pas réécrire la partie sociale. Il était trop tard. Alors qu'on aurait pu reprendre le point de départ, mais là, les États n'avaient pas négocié. Donc on s'est retrouvé à adopter un protocole social qu'évidemment, on n'aurait pas adopté tel que si les Britanniques ne nous avaient pas fait chier pendant un an, parce que c'est ça la réalité, et on aurait pu démarrer cette Europe sociale. Ensuite, quand on s'est élargi à la Suède, à la Finlande et à l'Autriche, là, c'était mort. Pourquoi ? Parce que ces pays-là, ensuite, on a à chaque fois, les Danois qui étaient déjà sur ces milieux-là, ont toujours dit non à l'Europe sociale parce qu'ils considéraient que l'Europe sociale, c'était un risque pour eux de baisser leurs normes. Donc pour eux, c'était niet. Nos normes sont plus élevées. Nous sommes les Übermensch. Vous êtes les Untermensch. Donc on ne veut pas parler avec vous. Vous gardez votre système de merde. Nous, notre système, il est parfait. Mais je vous assure, hein, c'est comme ça qu'ils nous parlaient. Non, non, attendez-vous. La sécurité sociale suédoise. Ma mère est suédoise, hein, donc je connais un peu les Suédois. Et donc, notre système à nous, il est bien supérieur. On croit que les Français sont arrogants, mais les Suédois, je vous conseille, le modèle suédois, c'est quand même pas mal dans le style arrogant. Notre système est parfait, on ne veut même pas discuter de social avec vous. Donc déjà, 95, c'est devenu difficile. Et alors après, on fait l'élargissement à l'Est, sans penser une seconde qu'on fait adhérer 10 pays dont le PIB consolidé est équivalent à celui des seuls Pays-Bas. Encore aujourd'hui, hein. Ça progresse, mais comme nous, notre PIB progresse aussi malgré la crise, eh ben, ils ne sont toujours pas rattrapés notre richesse. Alors eux, l'Europe sociale, c'est niet, parce que non pas, ils ne veulent pas un abaissement de leurs normes, ils ne veulent pas une élévation de leurs normes. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec des pays du Nord qui ne veulent pas de l'Europe sociale parce qu'ils ont peur que ça soit par le bas, des pays d'Europe de l'Est qui ne veulent pas de l'Europe sociale parce qu'ils ont peur que ça soit vers le haut. Donc là, j'ai peu d'espoir dans une Europe à 28 qu'on arrive à faire un jour des normes sociales minimales. En revanche, ça ne veut pas dire, et c'est pour ça qu'il faut commencer à penser plus souplement, qu'on ne peut pas avoir une Europe à plusieurs vitesses dans ce domaine-là, notamment au sein de la zone euro. Pourquoi ? Parce que dans la zone euro, l'idée quand même globale, c'est que le niveau de richesse soit à peu près équivalent. Alors, si vous prenez les États-Unis d'Amérique, aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique, entre les pays qui partagent, entre les États qui partagent le dollar, il y a la même différence de richesse entre les États américains qu'entre les États de la zone euro. Exactement la même. Hein, il y a l'équivalent de la Grèce aux États-Unis, il y a l'équivalent de la Finlande aux États-Unis, etc., etc. Donc, le distinguo est le même. Mais globalement, quand même, c'est l'idée que la Pologne ne sera pas membre de la zone euro avant de 30 ou 40 ans. Donc, au sein de cette zone euro, puisqu'on partage la même politique monétaire, puisque les contraintes budgétaires sont à peu près les mêmes, on pourrait adopter un traité social dans le cadre notamment... Alors ça, c'est une des idées qui commence à progresser. Je suis très content. C'est une idée qui vient en fait de Harvard, des États-Unis, qui nous l'ont proposé. Qu'on crée un budget de la zone euro qui permettrait de financer un minimum de chômage, d'assurance chômage européen, pardon. Donc un minimum. Ça ne veut pas dire qu'il y aurait une harmonisation. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas, 10% ou 20% des indemnités chômage seraient financées dans un pays en crise par ce budget de la zone euro. Quelle est l'idée ? C'est simplement que si, par exemple, le chômage explose en Espagne à cause d'une crise, d'un choc asymétrique, comme tout le monde alimente le budget, c'est les Allemands, qui eux ne sont pas en crise à ce moment-là, ce qu'on vient de connaître, qui alimentent le budget européen qui va directement dans les poches des Espagnols, puisque c'est eux qui connaissent un chômage qui explose à 25%, pas l'Allemagne. Et donc ça veut dire que pour les Allemands, la question du chômage espagnol devient une question nationale, puisque ça leur coûte de l'argent. Et donc ça les oblige à reconsidérer leur politique économique pour être solidaire de l'Espagne et sortir le pays le plus rapidement possible de la crise. Aujourd'hui, les Allemands, ils voient pas le problème. Ils s'en foutent du chômage en Espagne. D'abord, ça ne leur coûte rien. On a beau leur dire aussi que leurs excédents primaires vont à terme déboucher sur une catastrophe, y compris pour eux. Tant qu'ils n'ont pas vu la catastrophe, comme tous les États en général, ils s'en fichent. On verra ça, ça sera pour mon successeur à la chancellerie. Donc, ils ne veulent pas en entendre parler. Donc, on n'a pas créé ce mécanisme qui contraint les États à se préoccuper de la situation des autres pays. Donc voilà ma réponse. Il va falloir qu'on accepte de faire un second traité, à mon avis, zone euro, et à l'intérieur, qui soit propre à la zone euro. On n'en est pas encore là. Je vous dis, conceptuellement, la Commission notamment, elle continue à raisonner à 28, que pour les 28, et de raisonner seulement pour les 19. Encore dans le dernier rapport qu'ils viennent de rendre sur l'avenir de la zone euro, ils continuent à dire qu'à terme, tous les pays de l'Union européenne seront membres de la zone euro. C'est-à-dire qu'on a envie de se taper le cul par terre quand même. Comment on peut écrire ça aujourd'hui ? Enfin bon, ça fait partie, vous savez, c'est un peu comme l'Église catholique, on va dire, la Commission. Vous voyez, c'est un peu l'Église, quoi. C'est voilà, avec le pape en haut, et donc voilà, c'est le rituel. On dit, mais ça, il n'y a plus personne qui croit dans l'Église. C'est pas grave, on continue. Mais bien, chers frères, il n'y a plus personne, c'est vide, c'est pas grave. Donc voilà, c'est un peu ça la Commission. Donc, il faut qu'on change de logiciel, mais ça commence à venir, et je pense que des gens... Il y a monsieur et madame. Monsieur. Excusez-moi, il y a une dame qui avait... Allez-y.
Moi, j'ai bien aimé votre propos pourquoi les États centralisés se sentaient mal à l'aise dans l'Europe, contrairement aux États fédéraux. Et puis, je voudrais m'adresser à l'avocat que vous avez été auprès du Conseil d'État et de la Cour de cassation. Moi, je pense qu'un des principaux handicaps de la France pour être vraiment dans l'Europe, c'est l'administration, le service public, le droit administratif. Et moi, je suis moi-même directeur d'hôpital et donc fonctionnaire hospitalier, et je m'interroge toujours sur ces notions de service public hospitalier par rapport à des services publics, et je voudrais avoir une position là-dessus.
Ah oui, ça c'est... Mais étant un social libéral, si vous voulez, je suis dans ce métier plus d'un, mais c'est vrai que nous en France, on a une conception particulière, effectivement, on a un rapport particulier à l'État qui n'existe nulle part ailleurs dans l'Union européenne. Et c'est vrai qu'une des richesses nationales françaises, et aussi qui est devenue un handicap à force qu'on en produise, c'est le fonctionnaire. Nous sommes le principal producteur de fonctionnaires de qualité. On sait faire. Ça, c'est quand même une matière qu'on sait exporter dans le monde entier. On produit du bon fonctionnaire et du bon service public. Et donc, c'est vrai, nous, quand on parle de service public, globalement, c'est vrai, quand je vais en service public en France, bon, alors, l'hôpital moyen, parce que là, à la fin, on ne nous demande pas ce qu'on a pensé des services de tel infirmier. Moi, j'aimerais bien pouvoir remplir, je suis directeur d'hôpital, un petit truc. Moi, j'ai un copain là, qui est grec, qui vient de se faire opérer d'un cancer du côlon à Saint-Antoine, à Paris. Il m'a dit, mais là, la vache, j'ai cherché le questionnaire à la fin, quoi, hein, parce que j'ai trois choses à dire. Donc, mais ça serait bien que ça arrive. Et donc, nous, globalement, quand même, on se dit, quand vous dites un Français, État et service public, c'est. Voilà. Quand vous dites État et service public à n'importe quel autre Européen, et notamment un Italien ou un Allemand, il vous regarde avec des yeux comme ça. L'État n'a pas vocation à investir dans une usine, à produire de la valeur ajoutée. L'État n'a pas toujours raison. Les services publics ne fonctionnent pas très bien, notamment en Italie ou même en Espagne. Il n'y a pas l'État n'est pas incorruptible. Au contraire, il est corrompu à fond la caisse, même en Allemagne, contrairement à notre vision. Donc nous, quand on arrive ici, on est là, service public. Il nous faut une directive service public. Mais vous avez 27 pays qui sont là, surtout pas, l'État c'est l'horreur pour tout le monde. Donc nous, c'est toute la difficulté, et ça vous avez raison, la difficulté qu'on a c'est de faire entendre à nos partenaires que effectivement l'État n'a pas vocation à intervenir dans tous les secteurs de la vie économique, on a mis du temps nous-mêmes à l'accepter, hein, mais que l'État peut, est parfois nécessaire. Exemple, pour donner un coup de pouce à la conquête spatiale, exemple. Galiléo sans l'État, est-ce que vous croyez que Galiléo aurait vu le jour? Est-ce que vous croyez qu'Ariane Espace aurait vu le jour? Est-ce que vous croyez qu'Airbus aurait vu le jour? En Europe, on n'a pas cette tradition américaine qui permet à des entreprises d'atteindre des tailles mondiales. Et qu'il a fallu derrière qu'il y ait toute la volonté de l'État français notamment, puis après relayée par l'État allemand, pour qu'on crée ces espèces de champions européens et qu'on investisse à long terme. Notre capitalisme est de très court terme en France. Ça c'est vrai, c'est s'en mettre un maximum dans les poches, le plus rapidement possible, et puis à ciao. Exemple, ce qu'on a fait, c'est une catastrophe, la fusion Sanofi-Saventis. Ça a été une catastrophe mondiale. Pourquoi? Parce qu'on a donné notre feu vert à cette fusion, et bien l'entreprise française a démantelé l'entreprise allemande, totalement démantelée. Aujourd'hui, le résultat, c'est que les Allemands ne veulent plus entendre parler de fusion entre entreprises françaises et entreprises allemandes. C'est-à-dire que nos connards de capitalistes français, au lieu de se dire « on va penser à long terme » et au coup d'après, ils en sont mis un maximum dans les poches, sans penser qu'évidemment les Allemands, ça les a les traumatisés. Parce qu'en Allemagne, le capitalisme, il a une fonction sociale qui n'existe pas chez nous. C'est-à-dire que d'abord, on pense à la défense de l'entreprise, parce que ça défend l'emploi, etc. Chez nous, on s'en fout. Et d'ailleurs, et pourquoi? Parce que c'est une tradition, alors là, je reviens. La France, cette tradition de service public, elle est extrêmement récente. Elle est extrêmement d'intervention de l'État, c'est le CNR, le Conseil national de la résistance, c'est 1945. Parce qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, le capitalisme français était considéré comme un des capitalismes les plus brutaux de la planète. Lorsque vous parliez aux Anglais et aux Allemands, ils trouvaient que ce qui se passait en France était absolument épouvantable. Rappelez-vous, enfin vous ne connaissez pas ça, mais les maîtres des forges, etc., la puissance de ces industriels qui gouvernaient la France. La France était le paradis du capitalisme et de la Chine de moderne, la France avant-guerre. Donc c'est très récent. Et donc, on a cette histoire contradictoire, alors que par exemple, les Allemands, la sécurité sociale, ils l'inventent à la fin du 19e siècle. Les Anglais créent la sécurité sociale avant la Première Guerre mondiale. Nous, on attend la défaite, la glorieuse défaite, et 1945, pour qu'on la crée. Bien. Donc on a ce sentiment, nous, on a oublié notre histoire, on a oublié ce qu'on représente aux yeux des autres. Et effectivement, monsieur a raison de ce point de vue-là. Nos traditions sont parfois un obstacle à notre influence au sein de l'Union européenne. On doit globalement, et nos fonctionnaires souvent n'ont pas conscience de cette différence de conception, et que parce qu'ils représentent l'État français, ils ne sont pas forcément la raison. Voilà, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Et alors toujours pour terminer sur cette histoire de fonctionnaires, juste un mot, c'est qu'en plus nous on a une tradition de fonction publique en France très technique. Vous voyez, de gens qui sont formés techniquement. En gros, vous faites une école, vous débouchez sur tel machin, etc. Et vous avez rarement le mec qui a fait histoire de l'art qui se termine directeur d'administration centrale. Hein, on est d'accord? Vous êtes d'accord? L'histoire de l'art, généralement, c'est direct chômage. Hein. Bon. Par exemple, en Angleterre, Eh bien, le numéro 2 de la représentation permanente ici pendant tout un temps, ben, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait de vagues études de lettres et histoire de l'art. Et c'est un diplomate extrêmement brillant, qui a fait une carrière extrêmement brillante. Parce qu'en Angleterre, on a une autre tradition. Et donc, on n'a pas des gens qui sont tous formatés de la même façon. Et ça, c'est un problème fondamental. À la fois pour nous, les Français, ici, on est une puissance de feu extrême parce que c'est très concentré, mais on n'est pas transversaux. Alors que les Anglais, notamment, les Britanniques, ils sont extrêmement forts parce qu'ils sont transversaux. Et donc, c'est des gens qui sont habitués à travailler dans différents secteurs, qui ont une formation humaniste que nous n'avons plus, que nos élites n'ont plus. Et donc, ça donne une force, une puissance à ces administrations européennes. Et nous, ça nous handicape ici, parce qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'on a nos codes et nos référentiels, et je vois souvent des fonctionnaires qui ont beaucoup de mal. Ça change, hein, parce que la formation de l'ENA, elle a beaucoup changé. Depuis 10 ans, ce n'est plus la même chose. Je parle encore de l'ENA il y a 10 ou 20 ans, mais depuis 10 ans, les choses, la scolarité a beaucoup évolué. Mais on voit des gens qui arrivent ici, maintenant, qui sont un peu plus adaptés, un peu plus affûtés, un peu plus en contact avec la réalité extérieure. Il y avait deux dames.
Ouais, je propose qu'on prenne les deux dernières questions, peut-être qu'on les groupe et que ça répond. Oui.
J'ai deux questions. La première, elle est liée à l'histoire que vous avez vue, passer. Traité de Nice, fin du deuxième commissaire pour la France. Moi, j'ai entendu beaucoup de hauts fonctionnaires dire qu'on a fait la connerie de notre vie d'accepter ça. J'aimerais avoir votre point de vue, parce que vous avez vu avant, après, humainement, comment ça s'est passé, quelle différence vous avez vue.
Très bonne question.
Ça m'intéresse. Et l'autre question, enfin, disons, remarque, j'aimerais vous entendre sur la question des conflits d'intérêts et dans les agences européennes, puisque cette semaine on a eu des articles qui disaient que sur l'agence de sécurité alimentaire on avait plus de 50% des experts qui étaient compromis dans des liens avec l'industrie. Je rassure tout le monde, pour l'alimentation animale, les conflits d'intérêt étaient beaucoup moins forts que pour l'alimentation animale. Ça intéresse un peu moins. Et puis, alors je ne sais pas si c'est vous qui avez fait cette. Excusez-moi, je ne sais plus, mais il y avait une longue enquête dans Libération sur un dossier d'un médicament qui avait été bloqué par une fonctionnaire.
Oui, c'est moi. C'était l'Orfacol.
Ouais, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a. Cet article m'a traumatisée.
Mais j'ai traumatisé la commission aussi, je vous rassure. Parce que. Non, mais.
J'en ai beaucoup parlé avec mes amis. Enfin, c'est vrai que c'est des choses. C'était votre article. Bon.
Il faut que je note les tours, les autres questions. Orfacol, conflit d'intérêts, et le premier c'était
le deuxième commissaire.
Je vais répondre là tout de suite parce que sinon je les perds. Orfacol, oui, l'Orfacol c'était grave, mais chez nous on a eu l'affaire Servier avec le médicament.
Médiator,
ouais, c'est ça. On a eu Médiator. Je veux dire que ce genre d'histoire, on en a tous, c'est-à-dire l'interpénétration d'intérêts privés par, enfin de la commission, enfin de l'administration publique par des intérêts privés. Et puis une administration qui devient dingue. Mais c'est vrai qu'à Bruxelles, c'est très particulier, parce que quand j'ai commencé à sortir cette affaire d'Orfacol, donc où j'ai montré, c'est un médicament orphelin qui concerne une maladie orpheline du foie, c'est-à-dire qui concerne une quinzaine de cas identifiés en France, peut-être une trentaine sur l'ensemble de l'Union européenne. Et c'est un médicament hyper simple qui a été inventé par l'assistance publique, les hôpitaux de l'assistance publique de la ville de Paris. Et qui a. C'est ça ?
La APHP, Assistance publique Hôpitaux de Paris.
Voilà, c'est ça, qui a été inventé et qui ensuite ont vendu le brevet du médicament parce que c'est extrêmement complexe, c'est complexe à fabriquer, etc. Donc un laboratoire privé qui a demandé à l'Agence européenne du médicament une homologation qui leur permettait d'avoir une exclusivité sur la molécule pendant X années. Donc ça concernait 15 maladies. Accord unanime, l'Agence européenne du médicament donne son accord en disant effectivement c'est un médicament d'intérêt public. La commission ici bloque, ce sont des juristes, hein, les mecs de la DG Santé. Hein. Ceux qui sont ici à la Direction Générale Santé, il n'y a que des juristes, hein. Il n'y a pas un mec qui s'y connaît en science. Donc il y a quelqu'un qui s'appelle, une directrice d'unité, qui bloque le truc en disant non, le dossier n'est pas pour des arguties juridiques, des machins, etc. Enfin des trucs à la con. Et donc les États. Se prononce à l'unanimité contre la décision de la commission qui refuse, hein, mais se prononcer contre, on veut dire accepter, d'accord ? Ça n'oblige pas la commission à accepter, ça bloque juste le truc. Donc enfin bref, il y a une histoire comme ça, Et à la fin, bon, moi je fais une série de papiers où je révèle l'affaire en disant voilà, la commission, il y a un dingue, il y a une dingue à la commission qui bloque ça, alors que tous les États qui ont des sacrés services scientifiques disent ce médicament est génial et qu'il faut lui accorder évidemment cette exclusivité, cette molécule. Et tu as un type à la commission qui te dit, une nana en l'occurrence, non. Pourquoi? On ne sait pas. Alors, vaguement, il y avait un laboratoire américain qui était contrôlé par les Adventistes du 7e jour, une église importante aux États-Unis, qui avait déposé une demande, mais sans qu'elle ait fait. Hein. Et donc, ils exigeaient la commission. Non, mais après, là, il y a des jours, moi, le type, le porte-parole de la commission qui a fait ça, à la fin, je lui ai dit, à ta place, je fermerai ma gueule. Parce qu'il dit, en fait, ils expliquaient qu'il n'y avait pas eu d'essai clinique. Alors, en clair, l'essai clinique, c'est quoi? C'est que vous donnez le médicament à un groupe test. Et puis, l'autre, vous lui donnez un placebo au même groupe test. Mais la maladie, elle est mortelle, crétin. Donc, si tu fais ton essai clinique, tu perds la moitié de tes patients. Oui, mais ça, c'est des arguties. Et de toute façon, il y a des... Alors, réponse du fonctionnaire. Il y a un traitement alternatif. Ah ouais, je dis, ah ouais, quoi, lequel? La greffe du foie. Crétin. La greffe du foie, elle est mortelle, parfois. Je veux dire que c'est pas, la greffe du foie, c'est pas un truc, c'est pas du genre vous coupez un ongle, hein, greffe du foie. C'est une intervention lourde. Et en plus, qui est pas, même si elle réussit, vous pouvez avoir des rejets, etc. Donc c'est complexe. Donc vous avez un type, un fonctionnaire qui n'est pas un scientifique, qui a défendu jusqu'au bout cette pratique, cette politique, cette addiction plutôt, ce refus de reconnaître la qualité de ce médicament, et avec des arguments. Tel, notamment le porte-parole donc, avec qui j'avais affaire, qui me sortait des trucs absolument monstrueux. Et à la fin, je lui ai dit, tu devrais te taire, parce qu'un jour, je l'ai fait à la fin, j'ai cité tout ce qu'il m'avait dit en off. Donc voilà comment la commission, ce type, défend. J'ai dit, au bout d'un moment, tu dois juste dire, en off, il déconne. Je ne sais pas pourquoi, mais ça déconne. Et lui, mon petit soldat, il applique jusqu'au bout la politique de la maison. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? La Cour de justice est arrivée, il a bastonné la commission, il a dit, mais c'est n'importe quoi, vous devez reconnaître la décision de l'Agence européenne du médicament, etc. Donc, la maison était devenue folle, mais souvent la maison est folle, souvent la commission, parce qu'encore une fois, toujours ce que je disais tout à l'heure, des juristes, ils croient être les gardiens des morceaux de la vraie croix, ils croient avoir raison, et quand on leur dit, non, vous vous plantez, ils ne peuvent plus l'entendre. Et c'est pour ça, dans mon bouquin, il y a un chapitre, le chapitre 5 qui concerne la Commission européenne, qui est d'une violence extrême, parce que je pense qu'aujourd'hui, alors j'ai beaucoup parlé des États, mais aujourd'hui, un des obstacles à l'intégration communautaire, c'est devenu la Commission européenne. Je pense que la Commission, telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle est devenue, doit disparaître. Il faut raser, alors pour le coup, il faut changer complètement la maison. Elle est encalaminée, elle ne produit plus de valeur ajoutée, ça devient un répulsif. C'est pas moi qui le dis, c'est Wim Wenders qui dit l'idée européenne.
C'est pas des propositions incrémentales à la marge.
C'est pas une révolution. Non, parce que là, ce que je dis simplement, pour faire sauter la maison, c'est ce qu'il faut faire, c'est supprimer le statut de la fonction publique européenne, statut de droit privé, c'est-à-dire que les fonctionnaires qui ne donnent pas satisfaction peuvent être virés du jour au lendemain exactement dans le privé, surtout qu'au moment où vous avez des fonctionnaires qui proposent davantage de flexibilité du marché du travail, je trouverais bien qu'ils soient eux-mêmes soumis à un maximum de flexibilité, parce que moi, le mec payé 8000 euros par mois qui est garanti avec une retraite qui l'attend à la sortie, et quand je dis 8000, c'est sympa, hein, parce que généralement, c'est un plus haut, mais donc 8000 euros par mois qui a une méga retraite qui l'attend à la sortie, qui vous explique que, ouais, bah alors quand même, votre salaire, là, de 3000, il faut un peu le réduire, et puis votre retraite sera plus de 70 ans, et puis machin, c'est-à-dire, d'un moment, vous avez envie de dire stop, quoi. Donc appliquez-vous à vous-même les remèdes que vous recommandez pour l'ensemble de la société. Ça aurait quand même bien. Voilà. Donc, et la commission, pour moi, est devenue un problème parce que l'idée européenne a tendance à s'identifier aux institutions et à se réduire aux institutions. Et aujourd'hui, la commission suscite davantage de répulsion qu'elle suscite d'adhésion. La commission de Delors a disparu, il faut quand même le dire très clairement. Et vous verriez l'arrogance qui sort de cette maison. Moi, je dis toujours, quand je rentre à la Commission européenne, je suis fédéraliste. Quand j'en sors, j'en suis souverainiste. Je passe 10 minutes là, j'ai les cheveux dressés sur la tête. Parce que c'est trop d'arrogance, d'incapacité de comprendre les États membres, de perte de conscience. Mais c'est pas les fonctionnaires à un, il y a plein de gens de qualité. C'est l'ensemble, encore une fois. Vous savez, vous pouvez avoir des gens individuellement sympathiques, mais quand ils sont dans un système, ils deviennent globalement antipathiques. Et bien la Commission, c'est devenu ça. Donc c'est quelque chose qui doit être changé profondément. Deuxième chose, c'était les conflits d'intérêts. Alors là, je veux être très clair là-dessus. Vous avez raison sur le conflit d'intérêts. Mais quand madame, je réponds à votre question sur les conflits d'intérêts, là. Sur les conflits d'intérêts, il ne faut pas...
Il y a aussi beaucoup d'anecdotes.
Mais sur le conflit d'intérêts, moi, je suis d'accord avec vous, et je pense que l'Union européenne doit montrer l'exemple. Pourquoi l'Union européenne doit montrer l'exemple? Et elle devrait être impitoyable, mais 10 fois plus impitoyable que ne l'est sur nos États membres. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas la légitimité des États membres. Donc nous, on peut se taper une affaire Servier, ça ne remet pas en cause la légitimité de la France. L'Union européenne ne peut pas se taper des scandales genre Vache Folle, genre Orfacol, genre Servier. C'est pas possible. Parce qu'elle n'a pas de légitimité. Et donc la première chose qu'on balancera par-dessus bord s'il y a une crise démocratique en Europe, ça sera l'Union européenne. Et donc la Commission doit être plus exemplaire qu'exemplaire. Elle doit aller au-delà. Alors c'est vrai que ces règles aujourd'hui, quand vous voyez les règles générales contre les conflits d'intérêts, mais c'est bien plus fort qu'au sein de l'État français. Je veux dire que c'est les interdictions, les machins, les périodes de transition. Nous, on a créé un truc contre le pantouflage, par exemple, en France. Mais c'est une vaste plaisanterie. Je veux dire, le conseiller Nicolas Sarkozy qui a fait la fusion là, entre les deux banques, je ne rappelle plus lesquelles, les caisses mutuelles, je ne sais pas quoi, et qui ensuite se propulse lui-même, PDG de la boîte qu'il a fusionnée. Je veux dire que ça, à Bruxelles, quand même, on n'a pas eu encore. Bon. Barroso, il n'a pas fusionné, il n'a pas créé Goldman Sachs. C'est un scandale. Et il a attendu 2 ans et demi, il a respecté les règles. Donc je suis désolé. C'est-à-dire que Barroso, c'est pas bien. Barroso, c'est condamnable. Barroso, c'est un pur scandale. On devrait lui virer sa retraite. De toute façon, plus Barroso, c'était une catastrophe dans l'histoire de la Commission. Hein. Mais Barroso, je veux dire que chez nous, on a des Barroso tous les jours. On a eu, comment il s'appelle, le chancelier Schröder, qui accorde en tant que chancelier un prêt à Gazprom. Et ensuite, le lendemain, il quitte ses fonctions et il va, il devient PDG, pas de Gazprom, mais du consortium qui construit le Nord Stream. Attendez, aux dernières nouvelles, Barroso, il n'a pas fait ça. Hein. Allez voir ce que fait Tony Blair, Barack Obama, les conférences, les trucs et tout. Je veux dire, c'est quand même monstrueux. Mais vous avez raison, il faut être impitoyable. Et la Commission a tort sur les conflits d'intérêts, notamment dans les agences, parce que dans les agences, c'est vraiment... Si elle veut continuer, si elle veut faire péter la machine, alors que aujourd'hui les citoyens ne supportent plus ces mensonges en matière alimentaire, on devient hypersensible sur ces questions-là, eh bien, elle devrait nommer des scientifiques qui sont, mais clean, sans conflit d'intérêt. Nous, encore une fois, vous savez, on l'a vu, un pneumologue là, qui était payé par Total en France. En France, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Les énarques qui font une partie de leur carrière à l'État, au service de l'État, puis ensuite qui vont à EDF et qui défendent le nucléaire et qui imposent le nucléaire et puis après ils retournent à l'État, etc. Il faut pas arrêter. Nous-mêmes, le mélange des genres, il est quotidien. Mais l'Europe ne peut pas se permettre ça. Je suis 1000 fois d'accord. Sur le deuxième commissaire, je termine juste là-dessus. Vous avez 1000 fois raison, c'est une erreur. Ça, c'est l'erreur de Jacques Chirac, qui a cédé, au moment du traité d'Amsterdam, le deuxième commissaire des grands pays, mais en espérant, en échange, une réduction de la taille de la Commission. Le problème, c'est que la réduction de la taille de la Commission. Donc les grands pays, y compris l'Espagne, pour le coup, avaient droit à 2 commissaires. Et moi, je trouvais ça sain, que dans une commission élargie, même une petite commission, les grands pays aient 2 commissaires. Pourquoi? Parce qu'on vote à la majorité simple, et que je suis désolé, la France n'est pas l'Estonie. C'est la réalité. Et que le commissaire français ait la même voix que l'Estonien, ça pose, dans une construction qui n'est pas fédérale, ça pose un problème. Mais donc, quand on était 6, ça voulait dire que les 3 grands, ils avaient le double de voix des petits. Donc, voilà, on se sentait quand même représenté par ce qui se passait à Bruxelles. Mais même aujourd'hui, dans cette commission, à 28, c'est pas 2 commissaires qu'on devrait avoir, c'est 5, c'est 6. Puisqu'on a un commissaire par État membre, ça veut dire que quelque part on représente l'État membre. Et on n'est pas une fédération comme la Banque Centrale Européenne, comme la politique monétaire est une compétence fédérale. Donc ça me choque moins. Et eux-mêmes, ils ont mis un système de rotation pour que les droits de vote ne soient pas les mêmes, parce qu'ils sont trop nombreux au sein du Conseil des gouverneurs. Et là, cette commission, je suis désolé, quand, par exemple, elle adopte un rapport sur la France. Exemple. Alors il se trouve que le commissaire français, aujourd'hui, est chargé de ces questions-là. Donc le problème se pose moins. Mais ça pourrait changer. Mais, par exemple, il a fallu batailler comme des chiens pour que la Commission ne sanctionne pas la France pour déficit excessif. Et qui étaient les plus durs? Les putains de petits pays. Je veux dire, et donc, ils sont combien? Il y avait 3 Baltes, 1 Slovène, etc., qui étaient là, qui représentent des économies microscopiques qui sont 10 millions d'habitants maximum, tous bien mouillés, et qui sont là en expliquant on va sanctionner la France. On dit mais attendez les mecs, on a une élection présidentielle dans 6 mois, si vous sanctionnez la France, Marine Le Pen elle est à 50%. Vous n'avez rien à faire, la règle c'est la règle. Et la connerie quoi. Oui, vous avez raison. La commission telle qu'elle est politiquement, administrativement, ne correspond plus rien, mais politiquement elle ne représente plus rien. Les États n'ont pas confiance dans cette commission. Et moi-même, j'ai pas confiance dans cette commission. Je veux dire que le président français, je terminerai là-dessus, le président français est élu le lendemain avec une proposition qui dit, voilà, on va faire un Buy European Act. Un Buy European Act. Donc on va préférence communautaire pour les marchés publics. Le lendemain de son élection, alors qu'on est passé à ça d'une catastrophe avec l'élection de Marine Le Pen, hein, quand même. Nous avons quand même eu un peu peur tous, hein, donc on est. Le lendemain, vous avez un commissaire finlandais qui représente rien, qui arrive à la tribune, alors qu'il n'a même pas mandat pour dire ça, qui dit « Non, c'est contraire aux règles européennes, un Buy European Act ». Mais qui il est pour dire que le président français a tort? Qui il est? Qui est ce monsieur? Je n'en sais rien. Pour moi, il n'est rien. Il ne représente rien. Il n'a ni légitimité politique, ni légitimité démocratique. Et en tout cas, aucun mandat pour contredire un président qui vient d'être élu avec 66% des voix. Alors le lendemain, je peux vous dire, Juncker, il a rectifié le truc, et il a dit, mais attendez, il n'a jamais eu mandat, voilà la vraie ligne, on va étudier la proposition française, qui n'est contraire à rien du tout, d'ailleurs, parce qu'il y a un American, il y a un Buy American Act, il y a un Buy Chinese Act, il y a un Buy Indian Act, dans toute la planète. Il n'y a que les Européens qui considèrent que ça ne doit pas exister. C'est un problème, quand même. Donc, qui est cette commission pour contredire, comme cela, les États? Il y a un problème, parce que le résultat, c'est quoi? On sait très bien qu'on s'en fout que comment il s'appelle, Katainen soit pas d'accord. On sait bien que ce sont, si les États veulent faire un Buy European Act, la Commission elle fermera sa gueule. Mais le problème, c'est qu'on va titrer la Commission est contre la proposition française. Encore une fois. Donc on se dit, tiens, pourquoi la Commission? Mais c'est quoi la Commission? Mais de quoi je me mêle? Et puis, etc. Et ça accroît l'euroscepticisme. Ils ne savent pas faire de politique. C'est en cela que je dis que c'est un problème. Et une commission 28 ne fera jamais de politique. Alors la commission, elle retrouvera sa légitimité quand ils seront 10 commissaires, que le président de la commission pourra choisir les commissaires qu'il veut, dans les pays qu'il veut, les qualifier, ceux qui ont les plus grandes qualités, et il fera la commission qu'il désire. À ce moment-là, ça pourra être le gouvernement européen. Aujourd'hui, c'est effectivement, Donald Trump n'a pas tort, c'est un consortium. C'est un consortium. Et cette critique-là, moi, je la porte haut et fort, et je considère qu'il faudrait qu'un jour, dans cette maison, les gens entendent. Et c'est marrant parce que, terminer là-dessus, j'étais invité par un syndicat Renouveau et Démocratie à parler de mon livre, justement. Et donc, ils ont dit, voilà, conférence avec quatre maires. Il y avait 450 fonctionnaires. J'étais sidéré. Et quand je suis arrivé, je me suis dit, oulala, je rentre là-dedans. Parce que le chapitre, je vous conseille de le lire, c'est quand même assez... Je vais m'en prendre plein la gueule. Donc j'étais mis en nom alpha, style, je vais m'en prendre plein la gueule. Donc voilà, je vous aime beaucoup, néanmoins, sachez-le. Mais les 450, ils étaient d'accord avec moi. C'est-à-dire qu'individuellement, mon diagnostic sur la machine, parce que les gens sont pas... Je veux dire, les gens individuellement, c'est plein de gens de qualité. Je vous dis, c'est la machine qui est dingue. Hein? Et ben, les gens, ils disent, on n'en peut plus. Tous les jours, ce que vous décrivez, on le vit. Et on ne sait pas comment dire stop, on ne sait pas comment arrêter la machine, parce que la machine est dingue. La machine est dingue. Et voilà, il va falloir un jour, et vous savez, je crois qu'on ne fait pas de bonne politique sans de bons instruments. Si le général de Gaulle, en 58, a changé la Constitution, c'est parce qu'il savait qu'il ne pourrait pas mettre en œuvre sa politique, et sa politique de redressement de la France, sans changer les institutions. Et donc il a changé l'institution. Et donc je crois qu'aujourd'hui, les institutions que nous avons ne nous permettent pas de faire une bonne politique européenne. Et c'est ça qu'il est urgent de changer. Et la mécanique doit être révisée. Aujourd'hui, on a l'apparence d'une Ferrari avec un moteur cassé de R4. Ouais.